si ça, on ne l'entretient pas, et ben demain, on ne pourra pas donc alimenter tes bornes électriques pour les poids lourds, ta pompe à chaleur, les nouvelles usines, etc.
Avant ton émission, une petite question quiz. Quel est le point commun entre ces trois oiseaux ? Un balbuzard pêcheur, une cigogne blanche, un vanneau huppé ? Réponse A. Il renvoie à un ancien premier ministre si on change une lettre de leur nom. Réponse B. Ils font partie des espèces les plus touchées par des accidents liés au réseau électrique. Réponse C. Ils ont tous été observés dans les jardins de l'Élysée. Réponse D. Ils ont décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. La bonne réponse, c'est la réponse B. Pour diminuer la mortalité des oiseaux causée par les lignes électriques, l'Union européenne a dégagé un budget de 14 millions d'euros jusqu'en 2028. En France, c'est l'un des nombreux sujets qui sont traités dans les débats organisés par la CNDP qui mêle des citoyens et des experts. Vous pouvez y participer partout en France ou sur Internet jusqu'au 16 janvier prochain en allant sur le lien dans la description. On vous en dit plus en fin de vidéo.
Cette semaine, nous sommes en partenariat avec la CNDP, la Commission Nationale du Débat Public. Vous vous en souvenez, on avait déjà reçu la CNDP dans un Before the Brexit en 2023 et en 2024, on avait organisé une émission passionnante sur le sujet de la mer, le débat sur la mer. Aujourd'hui, une autre émission passionnante, on va parler de climat, on va parler d'énergie, on va parler de réseau d'électricité. On va aborder des notions comme la sobriété, l'adaptation, la décroissance. Posez toutes vos questions, j'ai quatre experts incroyables avec moi sur ce plateau. Pour en parler, le public, vous allez les applaudir très fort. Nous sommes avec Anaïs Lefranc-Morin. Anaïs, tu es la représentante de l'équipe du débat public à la CNDP.
Exactement.
Merci d'être avec nous, Anaïs. Très content de t'accueillir. Nous sommes également avec Xavier Piechazik. Xavier, tu es le président du directoire de RTE, le réseau de transport d'électricité. Tu nous en diras plus tout à l'heure.
Ok, Jean.
Merci d'être avec nous. On est également avec Adèle Tanguy, mesdames et messieurs.
Bonsoir.
Adèle, tu es chercheuse à l'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales.
C'est ça.
Vaste programme.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous, Adèle, dans ce Before the Brexit. Et enfin, nous avons été rejoints par Mireille Chiroleux-Assouline.
Bonjour.
Mireille, tu es professeure d'économie à PSE.
C'est ça.
Merci.
Et à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci de le préciser. On va parler de beaucoup de choses passionnantes. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en direct sur Twitch ou en replay sur YouTube. Bienvenue le chat. Vous êtes avec nous le chat. Vous allez pouvoir participer dans ce Before. On a des questions. Évidemment, on est avec la CNDP. On va évidemment vous faire participer. On a des questions à vous poser. On a de la concertation citoyenne à faire. Je note un truc intéressant, le chat. C'est que hier, quand on a discuté des difficultés politiques que traverse le pays, vous avez été nombreuses et nombreux à me dire que vous souhaitiez une république plus participative, avec plus d'implication des citoyens. Et ben voilà, on est avec la CNDP. Dès le lendemain, si ça c'est pas magnifique, vous allez pouvoir participer. Je commence avec toi du coup, Anaïs. La CNDP, c'est quoi ? Et comment ça marche ?
Alors c'est une vaste question, on pourrait faire l'heure dessus, donc je vais essayer d'être relativement courte. Mais on pourra bien sûr échanger ensemble si tout ça n'est pas très clair. Donc déjà pour commencer, la CNDP, donc Commission nationale du débat public, c'est une autorité indépendante qui est chargée en France de garantir
Parle bien dans ton micro.
Ah d'accord. Qui a pour charge de garantir le droit au débat sur toutes les questions qui touchent à l'environnement et à l'aménagement du territoire en France. Donc concrètement, cette institution, en fait, elle a déjà un certain nombre d'années puisqu'elle a été créée en 1995, même si elle a beaucoup évolué depuis. Ouais. Et en fait, c'est vraiment le résultat d'une évolution, on va dire, sociétale hein, qu'on a connue en France, mais aussi dans d'autres démocraties. En particulier, le fait que, on va dire qu'à partir des années 60-70, il y a eu un certain nombre de conflits autour de projets qui impactaient fortement l'environnement, de projets d'urbanisme. Et donc, il y a une demande de la part des citoyennes et citoyens qui étaient par ailleurs de plus en plus éduqués, on va dire avec des diplômes de plus en plus élevés, avec aussi un intérêt accru pour des échanges directs avec les décideurs et le constat que finalement aussi les corps intermédiaires que pouvaient être toujours, mais qui n'ont plus tout à fait la même place dans notre société, que sont les institutions syndicales, religieuses, ouais, etc., ne jouaient pas le même rôle. Et que du coup, on avait besoin finalement d'un espace où organiser un dialogue entre les citoyens et citoyennes et les décideurs de ces grands projets qui impactent la vie quotidienne de toutes et tous et aussi le devenir de notre pays, puisque il y a toujours une dimension, on va dire, assez forte de projection dans l'avenir avec les projets qui font l'objet d'une saisine de la CNDP, c'est-à-dire qui font l'objet d'un débat.
Justement, saisine de la CNDP, il y en a une en ce moment sur l'avenir de notre réseau électrique. Je me tourne vers toi, Xavier, et je te pose la question suivante. Pourquoi RTE a besoin d'un débat public sur l'avenir du réseau électrique? Pourquoi vous ne faites pas les trucs entre experts dans votre coin?
Parce qu'on est content de prendre l'avis des gens. Le réseau de transport d'électricité, il faut qu'il se transforme, parce qu'on veut faire plusieurs choses à la fois. On veut faire la neutralité carbone, et pour ça, il faut qu'on s'électrifie, parce qu'il faut qu'on arrête juste d'utiliser du pétrole et du gaz fossile. Donc on va avoir besoin de plus d'électricité. Donc on veut faire ça, on veut des emplois pour tous demain, donc il faut toujours des entreprises, des industries, etc. On veut que la lumière fonctionne toujours aussi bien. Regarde Jean ici, il y a beaucoup de consommation d'électricité.
On est un plateau
en fait,
de tournage, donc
on est un plateau, il y en a beaucoup. Et en plus, on aimerait bien que toute cette énergie qu'on va consommer demain, neutre en carbone, elle soit produite sur le sol français. Comme ça, ça nous permettrait de nous décoller de pays qui sont pas forcément nos amis. Bon, okay. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on va s'électrifier plus, et quand on va consommer plus d'électricité, il faut un plus gros réseau. Donc il faut qu'on développe. Donc nous, on a fait un plan, on le met sur la table, et on sera très heureux que tout le monde nous donne son avis, parce que c'est pas tout de dire qu'il faut un plus gros réseau demain. Il faut qu'on se dise, en fait, comment on le fait, où est-ce qu'on le fait, quelle forme il a, etc. Vous voyez, il y a une super carte derrière toi, c'est le réseau de transport d'électricité en temps réel.
Oui, c'est accessible en ligne sur le site d'RTE. D'ailleurs, vous pouvez voir en direct la santé de notre réseau de transport d'électricité.
Et tu vois, transiter les flux, c'est comme tes artères, tu vois, et c'est ce qui se passe en ce moment en France. Et c'est toute l'énergie qu'on échange aussi avec nos voisins. Voilà, donc ça, il faut qu'on le modifie, il faut qu'on le transforme, il faut qu'on le fasse grandir. Et tu vois que c'est un sujet vachement important, c'est du très long terme.
Ouais.
Et on est très contents, nous, qu'il y ait ce débat pour prendre l'avis de tous. D'ailleurs, je vous invite tous à donner votre avis.
Alors justement, vous avez un lien dans le chat sur lequel je vous invite à cliquer, puisque ça va vous donner l'opportunité de donner votre avis sur ce sujet, soit en ligne, soit à l'occasion de débats qui sont organisés près de chez vous. Rendez-vous directement sur le lien qu'on vous met dans le chat. Parlons des conséquences du changement climatique sur notre consommation d'énergie, parce que tout ça est très dynamique, évidemment, c'est pas neutre du tout ce qui est en train de se passer. Le changement climatique, Adèle et Mireille, je voudrais vous poser une question toutes les deux. Est-ce qu'en parallèle de la modernisation de nos réseaux d'électricité, on est de toutes les façons condamnés à consommer moins ou à consommer autrement? Est-ce que de toutes les manières, on va changer notre manière de consommer? Mireille.
Alors, changer notre manière de consommer, il faudrait que tout le monde le veuille. On ne peut pas décréter comme ça que le mode de consommation ou le mode de production va évoluer. Maintenant, que ça soit nécessaire, sans aucun doute. On voit bien que, par exemple, rouler dans un véhicule standard, dans un véhicule thermique qui fonctionne à l'essence, c'est quelque chose qui va être de moins en moins possible. Et heureusement, grâce à la réglementation, l'Europe, par exemple, a décidé de bannir les véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Donc, ça devrait pousser les constructeurs à fabriquer davantage de véhicules électriques. Maintenant, est-ce qu'il y a une demande en face ? C'est compliqué. Et si on parle uniquement de la consommation d'électricité, alors, ces véhicules électriques vont accroître la consommation d'électricité. Heureusement, ça joue en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça devrait réduire, mais à très long terme et pour l'ensemble de la planète, le changement climatique. Mais au niveau plus local, si les ménages décident de consommer moins d'électricité parce qu'ils consomment moins de façon générale, ça pourrait être bon pour l'adaptation, pour le changement climatique. Le fait qu'ils puissent le décider dépend aussi bien de leur sensibilisation que des usages qui leur sont proposés. Et le changement climatique ne joue pas dans ce sens-là, parce que le changement climatique impose, ou en tout cas suggère à de plus en plus de personnes d'utiliser de la climatisation. On n'est pas forcé d'utiliser de la climatisation. Il y a d'autres moyens de rafraîchir les habitations, mais il y a des endroits où ça devient indispensable. Et ça, ça augmente la consommation d'électricité, ça augmente les besoins.
Adèle, t'en penses quoi ? On est contraint à consommer moins ?
Alors, moins ou plus, je pense que ce n'est pas tant ça la question, mais en tout cas, différemment, c'est sûr. Sur le sujet de l'adaptation au risque climatique, moi, c'est ce que disait Mireille, mais on ne sait pas encore exactement comment on décide de s'adapter au risque climatique de demain. Et c'est vraiment ça, le cœur du sujet de l'adaptation. Et c'est de se dire, voilà, par exemple, en cas de canicule, est-ce qu'on va décider de se reposer sur plus de climatisation ou est-ce qu'on va décider d'utiliser d'autres solutions, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments. Par exemple, le fait de ramener de la nature en ville aussi, ça peut permettre de rafraîchir certains quartiers. Et en fonction de la solution qu'on décide d'adopter, on va avoir besoin de plus ou moins d'électricité. Et après, il y a aussi justement le sujet de la production électrique. Est-ce qu'elle est en capacité de répondre à ces solutions-là ? Donc, par exemple, la solution de la climatisation, on en a beaucoup parlé cet été pendant les périodes de canicule. Ouais. Et il y avait vraiment un sujet sur est-ce que dans des climats plus chauds demain, est-ce qu'on va être en capacité de produire assez d'électricité
pour faire marcher tous les climatiseurs ?
Tous les usages sont climatisés. Et avec les centrales nucléaires, avec les centrales hydroélectriques qui ont une capacité de production un petit peu moindre quand on est en période de sécheresse, justement.
Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que la France a trop d'électricité en été. Du coup, la clim, c'est bien. J'en sais rien, ça vous fait marrer, mais expliquez-moi pourquoi ça vous fait marrer, j'en sais rien, Mireille. C'est vrai ou c'est faux ?
Alors là, je pense que RTE serait mieux placé pour,
RTE,
pour
Xavier.
Parler de ça.
Jean. Nous, on fait des gros modèles. On projette la France en 2050. Mmh. On teste plein de scénarios. Des scénarios où on se réindustrialise beaucoup. Des scénarios où on décide d'être très sobre. Même si on décide d'être très sobre, on est amené à consommer plus d'électricité parce qu'on a tellement d'usage du pétrole à transférer. Que demain, il va falloir qu'on produise plus d'électricité parce qu'on va en consommer plus.
D'accord, donc ça, c'est sûr.
Ça, c'est sûr.
OK.
Alors, la climatisation, pas de panique. Même dans un monde, dans une France qui se réchauffe de plus de 2 degrés, même si un foyer sur deux a un climatiseur, à la fin de l'année, sur le bilan France, c'est pas beaucoup. C'est 2% de la consommation nationale. En 2050. Ce n'est pas un grand déterminant. On aura assez d'électricité, Adèle, demain, pour couvrir ça. L'urgence, ce n'est pas de se demander si on a trop ou pas assez d'électricité. Il s'avère qu'en ce moment, donc, on en a pas mal. C'est pas mal parce que du coup, les prix baissent. Mmh. Le sujet, c'est comment on arrive à se décoller le plus vite possible du pétrole et du gaz fossile. Parce qu'en fait, c'est ça l'urgence. On s'est engagé quand même à ne plus émettre beaucoup de CO2 en 2050. Aujourd'hui, en fait, on en émet considérablement. Donc, il faut qu'on bascule le plus vite possible. Je pense que pour ça, il faut qu'on aide les gens. Parce que tout le monde ne peut pas s'acheter une pompe à chaleur. Tout le monde ne peut pas faire de la rénovation thermique. Il n'y a pas des bornes électriques partout. Et c'est ça l'urgence. Sur la couverture de la consommation, pas de panique, on saura faire d'ici là. Mais ça veut dire quand même, et je reviens donc à mon sujet, excuse-moi Jean, je suis un peu monomaniaque.
Mais non, mais vas-y, Xavier, t'inquiète.
C'est dans ce monde-là, il faudra des trucs comme ça, parce que si ça, on ne l'entretient pas, et ben demain, on ne pourra pas alimenter tes bornes électriques pour les poids lourds, ta pompe à chaleur, les nouvelles usines, etc. Et donc, c'est ça l'enjeu.
Qu'est-ce que vous pensez de l'option qui, je crois, est populaire dans une partie du chat, qui est la décroissance ? Est-ce que la décroissance est une philosophie qui pourrait permettre de passer le cap et de transformer notre modèle électrique ?
Si la question c'est est-ce que ça pourrait permettre de passer le cap, la réponse est oui. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé comme mis en œuvre de façon majoritaire dans la population ? Je ne suis pas sûre du tout que les gens soient prêts à envisager un mode de vie décroissant. La question, c'est davantage d'avoir d'un côté des consommateurs qui sont responsables et en fait, la plupart du temps, ces consommateurs se retrouvent face à des produits qui leur sont proposés par des producteurs et qu'eux, on n'arrivera jamais à limiter. Et en fait, donc, la décroissance, c'est plutôt une question de sobriété de consommation, mais face aux tentations qui sont proposées par l'industrie de façon générale, c'est extrêmement compliqué. Et ce n'est pas quelque chose qui ressort vraiment de la responsabilité individuelle. C'est,
voilà. Adèle ?
C'est pas un sujet sur lequel je travaille directement, mais je pense que finalement, on ne peut pas se poser cette question-là uniquement si on regarde le réseau électrique et sur les enjeux d'adaptation, c'est un petit peu pareil. Finalement, y a des choix de société un peu plus larges à faire, et même quand on regarde l'adaptation du réseau électrique au risque climatique futur, en fait, c'est pas un sujet qu'on doit penser indépendamment de comment, par exemple, le réseau de transport s'adapte, mais aussi comment on adapte nos mobilités plus largement, comment les bâtiments s'adaptent, mais aussi comment on adapte notre usage du territoire, de la ville plus largement. Et du coup, c'est aussi des questions qui sont à regarder en interdépendance entre les différents secteurs, entre les différents sujets. Et donc, c'est aussi pour moi ce qui, je pense, est assez intéressant dans le rôle des réseaux d'électricité et de RTE, c'est de se dire que finalement, ce n'est pas un acteur tout seul qui doit penser son adaptation au risque futur, sa décroissance, son modèle économique. C'est un acteur qui fait le lien entre plein de sujets et plein de réseaux, plein d'usages, plein de services qu'on a tous les jours. Et donc, c'est une question qui doit se poser plus largement.
Alors, vas-y, Xavier.
Je peux rebondir, Jean ?
Oui, je t'en prie.
Ouais, je t'en remercie. Moi, je parlais du monde sobre qu'on a projeté en 2050. Qui n'est pas un monde décroissant, qui est un monde un peu croissant, quand même. C'est vachement dur à faire. On a projeté un monde où la consommation d'électricité devait être limitée à ne faire que plus 20% d'ici là. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus 30% de transport en commun. Ça veut dire un quart de bagnole en moins qui roule. Ça veut dire nombre moyen de people par voiture qui est aujourd'hui en dessous de 2, mettre strictement supérieur à 2. Ça veut dire recohabiter. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus dans nos appartements. Ça veut dire qu'on ait moins de mètres carrés. Ça veut dire qu'il faut qu'on vive plus dans des logements collectifs.
En moyenne.
Mais oui, mais en fait, ça veut quand même dire ça. Parallèlement, donc, on a fait un énorme sondage chez Ipsos. Et on a demandé aux Françaises et aux Français, 12 000. Ils étaient 12 000, et c'est le plus gros panel, ce qu'ils pensaient de l'idée de rester dans un logement collectif et presque qu'il soit plus petit demain. Bon, vous êtes prêts ? 61% des gens qui vivent en immeuble collectif veulent partir vivre en maison individuelle. Chez les 24-35 ans, c'est la moyenne de la salle, 81% veulent quitter leur immeuble collectif pour vivre en maison individuelle. Qui dit maison individuelle dit souvent une bagnole. Et on a posé la question à ceux qui vivent en maison et ils nous disent, à 85%, surtout, je veux y rester. Donc on est dans ce monde de contradictions. On sent bien qu'il faudrait qu'on soit plus sobre. Il faut qu'on se dise que c'est des efforts à faire. Bon, je pense qu'on y est beaucoup à être prêt. Ce n'est pas non plus un effet magique. Et de toute façon, on a collectivement un sujet, c'est qu'il faut que ça fasse envie. Et aujourd'hui, tu le disais, Mireille, ce n'est pas forcément une perspective partagée. Par tous. Et du coup, c'est bien qu'on en parle dans un débat public autour d'un objet technique, certes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, notamment ? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de consommer beaucoup plus d'énergie demain ou juste un peu plus ? Et moi, je pense que c'est bien qu'on en parle. C'est un vrai débat démocratique.
Ouais.
C'est un vrai projet pour demain. Nous, on construit une infrastructure pour 80 ans. Donc c'est quand même bien qu'on en parle maintenant.
Tu parles de débat démocratique, c'est on ne peut plus démocratique dans le sens où c'est nous qui la consommons, l'électricité à la fin. Donc c'est aussi des comportements individuels dont on parle, le fait d'avoir un chauffage, le débat éthique pour savoir s'il faut ou pas s'équiper d'un climatiseur pour passer les vagues de chaleur en été. Comment est-ce qu'on fait pour imprimer des changements dans les comportements individuels ? C'est un vrai enjeu. Sur l'électrification du parc automobile, c'est pareil, c'est un débat vieux comme le monde. Est-ce qu'on a les moyens ou pas de s'offrir un véhicule électrique ?
Oui, ben, là, il faut pas compter uniquement sur la responsabilisation du consommateur, parce que c'est rejeter la responsabilité et la culpabilité sur des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un autre véhicule.
Ce qu'on avait vu au moment du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, mais d'ailleurs, ça avait été anticipé depuis longtemps par certains économistes que je connais bien.
D'accord.
Mais le problème, c'est davantage, c'est la cohérence des politiques qui sont mises en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rendre, parce que ça, c'est inéluctable, rendre l'utilisation des énergies fossiles plus chère, tout en permettant à ceux qui ont des revenus faibles et qui sont très contraints dans leurs possibilités de changement d'équipement de le faire. Et donc, il faut les aider. Et les aider, ce n'est pas, j'entends déjà les hauts cris de certains, ce n'est pas de l'assistanat, c'est au contraire une mesure d'équité, parce que ces personnes-là ne pourraient pas supporter le poids de la politique. Mais ces politiques, elles sont aussi les politiques de rénovation urbaine, de rénovation énergétique des bâtiments, des logements. On parle d'adaptation ici aujourd'hui, adapter les cités à un monde qui devient de plus en plus chaud, c'est une politique de la ville. Et ça, la politique de la ville, elle sert de cadre et elle permet aux gens ou elle permet aux citoyens de vivre confortablement dans leur ville et pas forcément en ayant besoin, eux, de prendre beaucoup de décisions. Par exemple, la climatisation, ça devient un non-problème si les villes sont conçues de telle façon qu'elles ne se réchauffent pas trop, ou en tout cas, elles sont naturellement rafraîchies pendant les périodes de canicule. Donc, c'est tout un ensemble, et c'est un ensemble donc de subventions, éventuellement aussi d'aide.
T'inquiète, t'as de l'eau dans la gourde à côté de toi.
Oui, en fait, quand j'ai enseigné et quand je parle beaucoup, je finis par...
Ah, pardon, t'as donné des cours aujourd'hui, excuse-nous.
Donc, c'est une question... on peut aussi aider les secteurs industriels qui pourraient contribuer à cette adaptation et à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Il faut faire très attention parce que, évidemment, et c'est rationnel de la part d'une entreprise, il y a une tentation de bénéficier d'effets d'aubaine et de recevoir des subventions sans pour autant faire davantage que ce qui était initialement prévu. Donc, à ça, il faut faire très, très attention, mais ça peut tout à fait aider à la transition et à l'adaptation.
Ouais, pour rebondir sur ce que disait Mireille, moi je pense qu'il faut, il faut pas qu'on complique trop les choses. Il y a trois grandes manières d'arriver à se décoller du pétrole et à passer à l'électricité. Il y a déjà la conviction, parce que, et un débat public comme celui qui se mène en ce moment, il compte pour ça. C'est-à-dire qu'on parle de cette énergie, qu'on parle du climat, qu'on parle de nos réchauffements. Il y a quand même le levier de la conviction, donc c'est le premier. Le deuxième, c'est le levier de la norme, de l'obligation. On peut aussi contraindre les Françaises et les Français à... D'ailleurs, au passage, c'est ce qu'on fait dans l'industrie automobile, parce que, vous avez entendu, il y a des polémiques sur... On ne peut plus vendre des voitures thermiques à partir de... Alors là, c'est 2035, peut-être ce sera décalé avant, après, etc. Puis le troisième levier, c'est l'incitation, et donc c'est l'argent. Donc là, on peut subventionner. Bon, le budget de l'État n'aura pas plus de moyens demain qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Et en fait, du coup, ça finit sur le prix. Comment est-ce qu'on commercialise l'électricité et l'énergie demain ? Si le pétrole, ça reste moins cher et plus avantageux que l'électricité, bah c'est sûr que les gens vont rester au pétrole. Et donc là, il y a un vrai effort à faire, une vraie discussion. Et moi, je trouve aussi que c'est important que chacun donne son avis là-dessus. C'est des questions fiscales, etc. Est-ce qu'on est prêt à payer son litre d'essence un peu plus cher ? En contrepartie de ce que sa facture d'électricité baisse un peu, pour qu'un maximum de gens soient incités à basculer de l'un vers l'autre. Ça, c'est un vrai bon débat pour tout le monde, parce qu'il y a déjà eu dessus des polémiques, il y a eu les gilets jaunes, etc. Oui. Donc c'est un sujet super intéressant. Après, je suis d'accord avec toi sur la redistribution. Il ne faut pas matraquer les gens, et donc il faut les aider d'abord.
Et justement, les recettes fiscales peuvent servir à ça.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire que si tout le monde paie son litre d'essence un peu plus cher, ou même deux fois plus cher...
Ouais, le problème, c'est que ce n'est pas populaire jusqu'à nouvel ordre.
Non, ce ne serait pas populaire. Mais si on utilise les recettes de cette fiscalité, parce que cette fiscalité, elle n'est a priori pas faite pour obtenir des recettes fiscales. Elle est faite pour changer les comportements. Donc, si on utilise ces recettes fiscales et qu'on en distribue une très grande partie sur ceux qui ont les revenus les plus faibles, parce que ce n'est pas la peine de distribuer aux plus riches.
Non.
Ceux-là, ils vont, en fait, ils vont quand même limiter leur consommation parce que ça ne les arrange pas de payer plus cher l'essence. Donc, ils vont quand même basculer aux véhicules électriques et à l'électricité plutôt que l'essence, mais ça ne leur fait pas un choc sur leur niveau de vie et donc, ce n'est pas la peine de les compenser. En revanche, compenser les plus pauvres et justement et les aider à acheter donc, des équipements qui leur permettent de se passer des énergies fossiles.
Anaïs, est-ce qu'on va parler de tout ça dans le cadre du débat de la CNDP? Est-ce qu'il y aura des tabous? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de dire? Ça marche comment?
Alors non, un débat public, en fait, c'est nous, on est vraiment, on va dire, côté équipe du débat public, on est là pour permettre à vous toutes et tous de pouvoir déjà, un, être informés, avoir les informations pour vous faire un avis sur cette proposition qu'a fait RTE d'un schéma d'investissement qui est quand même vraiment important, qui est structurant, qui est engageant aussi pour l'avenir à la fois énergétique, économique, territoriale de notre pays. Donc déjà, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de vous permettre de vous saisir de ce sujet qui est assez complexe, parce qu'en fait, derrière, il y a énormément, on commence à le voir ici, il y a énormément d'enjeux qui sont derrière, aussi des questions très techniques qui peuvent se poser et finalement créer des débats très enflammés lors de nos webinaires notamment. Ça, c'est la première chose qu'on essaie de faire. Et la deuxième chose, c'est vraiment de vous permettre de vous exprimer, quel que soit finalement votre lieu de vie, votre âge, votre situation professionnelle, sociale, etc. En fait, dans les principes de la CNDP, il y a vraiment l'idée que la voix de chacune et chacun compte. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à la fois à organiser des choses qu'on met à votre disposition, notamment tous les outils qui ont été mis en ligne, là vous avez le lien, et qui vous permettent en fait de pouvoir contribuer avec des questions sur une plateforme de questions-réponses, une carte interactive qui vous permet de voir comment est aujourd'hui le réseau, qu'est-ce qui est projeté par RTE à plusieurs échéances de temps, et du coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer où sur le territoire français. Donc ça, c'est voilà, il y a aussi un parcours qui s'appelle Quizelec, qui permet de finalement être mis face à différents types d'arguments, des positions, y compris notamment sur les questions de sobriété électrique et de consommation, aussi sur les questions de réindustrialisation qu'on n'a pas encore évoquées, mais qui sont aussi des enjeux importants pour le débat. Et donc, il y a ces outils-là, mais on va aussi chercher des publics, des personnes qui, on le sait, ne se connecteraient pas forcément aux webinaires qu'on organise, qui n'iraient pas forcément dans les réunions qu'on organise aussi dans les territoires, et donc auxquels on propose des espaces pour, là aussi, se saisir du sujet et pouvoir faire porter leur voix, tout simplement pour avoir des visions qui soient diverses, qui soient plurielles, et qui puissent permettre à RTE de se dire, voilà, nous, on nous a remonté tel argument, tel avis, qui s'appuie sur telle vision des choses, et est-ce que ça amène à faire évoluer le projet? Est-ce que il y a des choses qu'il faut éclaircir? Est-ce qu'il y a des choses c'est vraiment le but du débat public. Ouais. Et donc il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire que nous on propose des questions qu'on soumet au public qui sont issues de au fur et à mesure en fait qu'on avance dans le débat qui a commencé à la mi-septembre et qui va se terminer en janvier. On donne des espaces d'échange, mais on permet aussi tout simplement d'inclure tous les questionnements qui nous remontent dans le fil du débat, de vous donner accès à des experts et des expertes comme les deux chercheuses que nous avons ici ce soir, mais aussi des acteurs associatifs ou autres.
Il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé oui. C'est quoi RTE? C'est réseau de transport d'électricité, c'est l'opérateur qui s'occupe de transporter de l'électricité entre la centrale qui la fabrique et toi qui l'utilises.
C'est ça.
C'est ça, ça
te et comme ça voilà. En fait, et qui gère le système électrique, et en fait, c'est la boîte qui fait en sorte que quand tu appuies sur l'interrupteur, ça marche.
ne serait-ce que ça, c'est rien que ça. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Xavier. Tu as parlé tout à l'heure de l'adaptation de notre réseau électrique au changement, notamment au changement climatique. Moi, j'ai du mal à me rendre compte du niveau de vétusté de nos infrastructures. Quand je vois une ligne à haute tension, je vois des pylônes, je vois des câbles, j'y connais rien.
Ils sont normaux, ouais.
Ouais, c'est ça. J'ai du mal à me dire que notre réseau est complètement dépassé.
Ils sont normaux. Alors, avant de te répondre, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Anaïs. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de tabou, mais en fait, j'aimerais, au-delà qu'on parle de nos propres contradictions, parce qu'on en transporte tous. Je vais en citer trois. Typiquement, on voudrait moins de pylônes dans nos paysages, souvent. Mais si on enfouissait tous les besoins de réseaux supplémentaires, ça coûterait, dans notre plan, 50 milliards de plus en 15 ans.
C'est beaucoup.
50
c'est
milliards beaucoup. De plus. Et à la fin, c'est le consommateur qui paye.
Ça fait un paquet de réformes des retraites.
Exactement.
En ce moment, c'est pas trop l'ambiance. T'inquiète, c'est pas grave.
Deuxième contradiction. On a parlé sobriété tout à l'heure, mais on se suréquipe électriquement. Tous. On a des trucs comme ça, par milliers, etc. On voudrait tous un emploi, on voudrait tous des usines, mais on n'a pas envie d'infrastructures pour alimenter ces mêmes usines. Et moi, ça m'intéresse qu'on se parle de ça. Et qu'on s'en parle franchement. Je trouve ça très intéressant. Et ça, c'est un beau vrai débat. C'est un beau vrai débat démocratique. Pas celui qu'on entend aujourd'hui, en ce moment, mais un truc de fond. Alors, sur le changement climatique, notre réseau, il va bien, il n'y a pas de coupure d'électricité. Aujourd'hui, il y en a partout et en France, tout va bien. Simplement, il faut qu'on se préserve de la manière dont le climat va changer. Il y a trois grands changements. Donc, on s'attend à plus de tempêtes demain. Alors ça, on a fait les efforts sur 10 ans, on a renforcé le réseau. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Deuxième changement, demain, il y aura plus de bulles de chaleur. Il y a plus de moments caniculaires. Ouais. Dans le sud-ouest, par exemple. Il peut faire 50 degrés sans vent pendant très longtemps. Ça déforme les lignes électriques.
Ah.
Elles se dilatent.
Merde.
Donc, il faut... Non, mais
c'est...
C'est très simple. Donc, il faut quoi? Il faut changer les pylônes, il faut les remonter, il faut retendre les câbles, il faut en mettre des neufs. Troisième élément, demain, il y aura plus d'inondations. Donc, on a des cartes pour ça. Mais il y a des postes électriques qui sont des vrais nœuds électriques très importants. Si on perd un poste électrique, vous n'avez plus d'électricité chez vous. Et donc, il faut qu'on les déplace. Donc, le vent, on s'en est occupé. Il faut qu'on fasse la question du chaud. Et il faut qu'on fasse la question des inondations. Ce paquet-là, d'ici 15 ans, c'est à peu, entre 20 et 25 milliards d'euros d'investissement. C'est beaucoup de réseaux. Il faut qu'on le fasse maintenant, parce qu'il faut qu'on soit prêt pour le climat de 2040, 2050, 2070, etc. Une fois qu'on aura fait ça, on sera paré.
Adèle, je suppose que le changement climatique va impliquer une évolution de nos réseaux, et pas seulement du réseau électrique, le réseau d'eau aussi, sans doute, je suppose.
Oui, tous les réseaux. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Xavier, c'est que pour moi, il y a deux enjeux quand on parle d'adaptation au changement climatique. Il y a le premier dont on parlait là, qui est celui de la résilience des infrastructures. Mais il y a aussi le deuxième, qui est de se dire, en fait, face au changement climatique, face aux inondations, aux canicules, aux sécheresses accrues dont parlait Xavier, nos territoires, ils vont évoluer aussi. Et finalement, c'est ce qu'on disait aussi avec Anaïs, avec le projet de CNDP, c'est que apporter de l'électricité à un territoire tel qu'il est aujourd'hui ou apporter de l'électricité à un territoire modifié parce que on aura plus ou moins de projets industriels, parce qu'on aura déplacé certaines activités à cause des effets du changement climatique, c'est pas la même chose en fait. Et donc c'est aussi ces questions-là qu'il faut se poser. Et donc il faut réussir à faire dialoguer la manière dont RTE décide de voir l'adaptation de ses réseaux, mais aussi le réseau en intégralité, avec la manière dont les territoires vont s'adapter. Et ça, c'est ce qui était proposé dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique qui a été publié en début d'année. C'est le troisième volet, on l'appelle le PNAC, et qui proposait justement d'avoir des débats dans les territoires sur la manière dont on voit l'adaptation.
Anaïs, c'est quoi les grandes lignes de fracture dans le débat public sur les questions d'électricité? Est-ce que c'est pro-nucléaire, anti-nucléaire? Est-ce que c'est plus subtil que ça?
C'est plus subtil que ça. Alors déjà, je dirais que ce qui nous a enfin, marqué au lancement du débat, c'est que finalement la question de l'adaptation au changement climatique, elle n'était pas clivante. C'est-à-dire qu'il y avait un assez large consensus sur le fait qu'on allait devoir faire évoluer les infrastructures, nos villes, nos territoires. Voilà. Là-dessus, on va dire qu'il y a assez peu de débats. Après, il peut y avoir des débats sur à quel rythme est-ce qu'on le fait, à quel niveau de transformation et du climat. Voilà, sur quoi est-ce qu'on se base? Est-ce qu'on part sur les hypothèses actuelles du GIEC? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on se fonde sur les trajectoires qui ont été aussi définies par Météo France? Enfin, il y a des débats là-dessus, mais on va dire que globalement, il y a quand même un accord sur la nécessité de s'adapter au changement climatique. En revanche, ce qui est effectivement extrêmement clivant, c'est comment est-ce qu'on dimensionne le réseau par rapport à tout ce qu'on s'est dit? On voit qu'il y a en fait énormément d'inconnus. C'est-à-dire que il y a des questions de... Là, on se projette sur 80 ans. 80 ans, c'est long. On voit que les choses évoluent très vite. La question, c'est finalement... quand on construit un réseau, on projette des trajectoires sur le long terme. Et la question, c'est sur quelle hypothèse on se base? Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de débats. Depuis qu'on a lancé le débat à la mi-septembre, il y a beaucoup de questions sur... Sur finalement quel niveau de consommation on part pour dimensionner les transformations. On a aussi des questions sur finalement qu'est-ce qu'on doit raccorder à ce réseau-là. Est-ce qu'effectivement il faut plutôt privilégier des sources de production renouvelable type éolien? Effectivement, on a la grande discussion renouvelable versus nucléaire, mais on a aussi des questions sur est-ce que par exemple c'est plutôt... est-ce qu'il faut aussi privilégier d'autres sources d'énergie que l'électricité? On a aussi des débats là-dessus. Donc voilà, on voit que c'est des questions qui sont, assez clivantes et sur lesquelles on a vraiment toute une gamme de positions. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de pouvoir surtout mettre en débat quelles sont les conséquences de toutes ces... orientations sur le réseau électrique, parce que finalement, c'est ça vraiment l'objet du débat. Ouais. C'est quand même un peu plus précis. Disons qu'il faut que ça atterrisse après sur un projet.
Mais Anaïs, quand même, il y a des clivages, parce que quand tu vois ce qui se passe dans ce type de débat, il y a des moments aussi religieux, beaucoup trop religieux. Il y a des partisans qui sont anti-nucléaire absolu, ceux qui sont anti-ENR absolu. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on en souffre un peu de ce...
L'ENR, c'est énergie renouvelable.
Ouais, excuse-moi.
Je t'en prie.
Et on en souffre un peu parce qu'il faudrait qu'on arrive à avoir un débat qui soit un débat technique, un débat économique, un débat de société, un débat politique au sens noble. Et c'est vrai qu'il arrive que ce soit pollué par un débat qui est quand même un peu religieux. Et moi, ce qui me plaît dans ces exercices qu'on fait là, c'est qu'on essaye de sortir de ce débat religieux super polarisé, tu vois. Sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de débats super polarisés sur tes questions.
Pas que.
Mais là, il y en a. Mais quand même beaucoup. Et donc, l'idée, c'est qu'on en sorte de ça et en fait, que les gens, même s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils arrivent à se parler autour de quel mode de vie on veut demain. Est-ce qu'on veut plus d'industrie, moins d'industrie, plus d'éoliennes ou moins? On peut avoir un débat. C'est la démocratie et c'est très bien. Mais ce qui compte, c'est qu'on laisse notre religion sur le côté pour qu'on arrive à se parler de ça. Parce que nous, on a aussi besoin de ça. Nous, on va quand même investir de l'ordre de 100 milliards d'euros dans un réseau. C'est quand même beaucoup d'argent. Et donc, il faut un peu qu'on soit sûr de notre coup. Il faut qu'on soit un peu en confiance avec ce que la société française veut. Il ne faut pas qu'on tape à côté. Et donc, pour nous, ces moments, ils sont importants pour ça, à condition qu'on arrive à se parler. Bon, alors je crois qu'on va y arriver grâce à toi. Donc, Anaïs et ton équipe. Mais c'est quand même un combat, ça. Hein.
Et grâce à vous dans le chat, évidemment, qui allez participer massivement, je l'espère, à ce débat. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, le chat, pour que vous puissiez participer un petit peu à la discussion. Selon vous, quels objectifs devraient être prioritaires pour guider l'évolution du réseau du transport d'électricité? Est-ce que c'est accompagner la réindustrialisation décarbonée de la France? Est-ce que c'est, dans un souci de sobriété énergétique, l'évolution du réseau électrique doit anticiper la baisse des besoins en électricité? Ou est-ce que la planification du réseau doit être plus prudente pour tenir compte des incertitudes liées à l'avenir? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je suis curieux que vous me donniez votre avis.
Ouais, je commence.
Non, c'est pour le chat.
C'est pour le chat.
Ah, c'est pour le chat.
Pour le chat. Non, mais toi,
j'ai pas
le droit
de répondre, moi.
Je me doute que t'as ton opinion, mais.
Sans déconner.
On va laisser le chat. Non, t'as pas le droit de répondre. On va laisser le chat réfléchir à ça, se poser la question sur la base des discussions qu'on a autour de ce plateau depuis tout à l'heure. Et on va continuer à discuter. Mireille, je voulais te demander si l'adaptation au changement climatique est un corollaire nécessaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que les deux doivent avancer séparément l'un de l'autre ? Est-ce que les deux peuvent se nourrir ?
Non, raisonnablement, les deux doivent avancer conjointement, ou en tout cas, de conserve. En fait, les deux n'ont pas le même objectif, n'ont pas le même horizon. C'est-à-dire que l'adaptation, c'est définir des stratégies, des politiques qui vont permettre d'éviter ou de limiter les dégâts qui sont dus au changement climatique et donc les conséquences du changement climatique. Et donc je rappelle quand même que la trajectoire de réchauffement qui a été prise comme référence pour la définition du plan national d'adaptation au changement climatique, c'est une trajectoire qui envisage un réchauffement de 4 degrés de la France à l'horizon 2050. Et c'est considérable. Donc 4 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Et ce à quoi on s'attend, c'est qu'en France, le réchauffement soit plus important que le réchauffement moyen sur la planète. C'est-à-dire s'il y a un réchauffement moyen de 3 degrés, on s'attend à ce que ça soit 4 en France. Donc ça, c'est considérable et c'est ça l'adaptation. Maintenant, l'atténuation, c'est l'ensemble des politiques qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire à réduire les causes du changement climatique. Maintenant, étant donné que le changement climatique est dû à une concentration excessive de certains gaz, donc essentiellement du dioxyde de carbone, mais d'autres, dans l'atmosphère, dont la durée de vie est très longue, même si nous arrêtions complètement sur la planète actuellement d'émettre le moindre gramme d'équivalent dioxyde de carbone, ça ne changerait rien pendant des décennies.
D'accord.
Enfin, quasiment rien.
C'est l'inertie
C'est l'inertie parce que ces molécules de dioxyde de carbone, elles sont dans l'atmosphère et puis elles y restent, elles sont extrêmement stables, elles y restent pendant des siècles. Donc l'horizon de l'atténuation, c'est un horizon de long terme. Les bénéfices de l'atténuation, ce sont des bénéfices qui sont des bénéfices globaux pour l'ensemble de la planète. Et c'est pour ça qu'on a quand même du mal à sensibiliser les gens à la nécessité de faire des efforts. C'est-à-dire qu'ils voient bien qu'il faudrait qu'ils fassent des efforts, mais il y a la tendance naturelle à penser que on n'est pas le principal responsable et qu'il y en a d'autres, il y a d'autres pays, il y a d'autres émetteurs, etc. Donc ça, c'est la difficulté. Maintenant, pour, au contraire, l'adaptation, là, les effets, les bénéfices, ils sont locaux et ils peuvent être à court terme. C'est-à-dire que si on arrive à améliorer la résilience des territoires vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis du réchauffement, eh bien, si on arrive à le faire d'ici 10 ans, eh bien, ça facilitera la vie de tout le monde d'ici 10 ans et ce sera effectif. Donc ça, c'est la grande différence. Maintenant, se concentrer uniquement sur l'atténuation, ce serait une mauvaise idée maintenant que le réchauffement est là. Parce qu'il faut bien s'occuper
du problème.
Ouais. Se concentrer uniquement sur l'adaptation, ce serait extrêmement défaitiste. Pas seulement défaitiste, au contraire, consacrer l'irréversibilité du mouvement vers un changement climatique de plus en plus rapide. Parce que ce que l'on ne sait pas bien, c'est à quel point cette évolution est non pas linéaire. On pense que ça n'est pas linéaire. On pense que c'est sans doute, et alors là, je fais appel à vos souvenirs de mathématiques, on pense que c'est même convexe, c'est-à-dire que ça va en s'accélérant de plus en plus. Donc on ne peut pas renoncer à l'un des pans de la politique. Hein. Il faut au contraire agir sur les deux côtés en même temps.
Je voulais réagir parce que ce que disait Mireille, qui est tout à fait vrai, c'est que donc, la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique prise par le gouvernement dans le cadre du plan national d'adaptation, qui est donc de 3 degrés au niveau mondial d'ici la fin du siècle, 4 degrés en France, c'est en même temps considérable. On ne se rend pas compte, en fait, mais il y a des limites à l'adaptation qu'on va atteindre, c'est-à-dire qu'on ne sera plus en capacité de s'adapter à certains effets, on va devoir subir des conséquences. Et en fait, sous ce niveau de réchauffement-là, ces limites, elles ont de plus en plus de chances d'être atteintes. En même temps, c'est considérable. Et en même temps, finalement, ce n'est pas si pessimiste que ça. Parce que donc, 3 degrés moyen, en moyenne au niveau mondial, c'est un petit peu plus que si on additionne tous les engagements pris par les États au niveau international. C'est-à-dire que si on additionne, par exemple, en 2021, ce qu'on appelle les contributions nationales déterminées, donc ce que les États soumettent au niveau des COP, ça nous redonne un réchauffement moyen de 2,8 degrés. Donc finalement, on n'est pas si loin que ça. Et ça, c'est les engagements, les politiques mises en place par les États dans le sein de leurs frontières. Elles ne sont pas encore au niveau de leurs engagements. Donc il y a en même temps un écart pour atteindre les 1,5 degrés des engagements, mais aussi un écart entre les engagements et ce qui est fait. Donc en fait, si rien n'est fait, on se dirige même vers plus que ça. Et d'ailleurs, ce qu'on préconise, parce qu'on parlait beaucoup de la question de l'incertitude, de comment on fait pour gérer cette incertitude-là, ce qu'on préconise dans le cadre de la trajectoire, c'est de regarder ces 4 degrés. Mais en fait, il y a déjà plein de gens, plein d'opérateurs, plein d'entreprises qui décident de regarder des scénarios plus élevés, plus pessimistes. Et notamment, je crois, pour l'adaptation des centrales nucléaires, c'est le scénario le plus pessimiste du GIEC, du groupement des experts pour le climat, qui est regardé. Parce qu'en fait, on parle d'infrastructures très sensibles, à des temps très lointains. Donc, on n'est vraiment pas sûr de à quel risque est-ce qu'on s'expose. On est obligé de faire un peu attention.
Le débat sur l'avenir de notre réseau d'électricité, est-ce qu'on ne nous demande pas de résoudre l'équation de la planification après tout ? On a parlé de cette adaptation au changement climatique, de ce plan national d'adaptation. Est-ce qu'on n'est pas au cœur de la planification économique ?
Si.
Si, Xavier ?
C'est clair que c'est exactement ça. On va équiper... Il y a déjà un réseau, il faut qu'il grandisse. Et donc la question, c'est dans quelle proportion et... où est-ce qu'on met des nouveaux morceaux, etc. Donc du coup, ça te pose à te poser la question de est-ce qu'il faut que les énergies renouvelables de demain soient concentrées ou soient diffuses ? Ça te conduit à te poser la question de est-ce qu'on va concentrer nos zones industrielles à quelques endroits où on va donc étaler ça sur le territoire français, etc. Donc ça va brasser tout ça. Ça va parler quand même de la forme de notre territoire de demain. Et c'est vrai que plus on prend des options, plus effectivement ce réseau, il est mutualisé, il est optimisé demain et moins il est cher. Tu vois ?
Ouais, je comprends.
C'est plus t'anticipes, plus tu peux faire les investissements au bon endroit, au bon moment, moins à la fin c'est cher pour le consommateur. Et là, je reviens sur mon sujet dont on a parlé avec Mireille, c'est que c'est important que l'électricité elle soit pas trop chère pour le consommateur parce qu'il faut que ce soit un vecteur d'énergie qui soit attirant et qui soit compétitif. Tu vois ? Donc, plus on anticipe, mieux c'est.
Et je voulais rebondir, puisque ta question, c'était Adèle. Est-ce qu'on est au cœur de la planification économique ? En tout cas, on est en train de parler d'enjeux de planification écologique, avec d'un côté l'adaptation, d'un autre côté l'électricité, comment on sort des énergies fossiles, etc. Il y a vraiment un sujet pour réussir à rejoindre les deux et faire en sorte qu'en fait, la planification écologique, ce ne soit pas une discussion qu'on a au sein du ministère de la Transition écologique avec les gens qui sont déjà d'accord, qui parlent déjà de biodiversité, etc. Mais que justement, ça puisse aussi influencer toutes les décisions qu'on prend en matière d'économie, qu'on prend en matière d'aménagement du territoire et que finalement, ce soit un débat qu'on ait avec tous ces gens-là et que ça puisse... réussir à se mettre d'accord sur des solutions qui seront réellement mises en œuvre par autant les acteurs économiques, autant les élus locaux, autant les différents ministères et pas uniquement le ministère de la Transition écologique.
Ouais.
Et peut-être pour réagir, effectivement, nous aussi, dans les débats qu'on organise sur le territoire notamment, on organise cette rencontre entre des acteurs qui sont des acteurs économiques, entre des élus de collectivités locales qui ont des projets pour aussi la transformation de leur territoire, avec différentes associations aussi qui portent des sujets, des visions aussi de l'évolution de l'environnement. Et donc, on cherche à créer cette rencontre parce qu'effectivement, Les sujets ne sont pas distincts les uns des autres. Et un débat comme celui-ci, en fait, il fait se rencontrer des questions territoriales, économiques, sociales, on l'a vu, sociétales, de mode de vie, transformation industrielle aussi, avec la question des filières qui permettent aussi de concrétiser ce projet. Donc c'est vrai que ça emporte énormément de thématiques qui ne peuvent pas être traitées de manière séquencée, parce que sinon on n'arrive pas à un tout cohérent et à un projet qui répond aux différents enjeux qu'on a relevés en fait.
Je voulais demander aussi la question de l'impact de la modernisation sur nos milieux naturels et sur la biodiversité et sur nos paysages aussi. Xavier, est-ce que notre réseau de transport d'électricité actuellement a un impact négatif sur la biodiversité ? Est-ce que les oiseaux sont électrocutés par les câbles électriques ?
Alors, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Je ne sais pas si tu as déjà vu sur une ligne haute tension des boules.
Oui.
Bah, ça s'appelle des balises avifaunes. En fait, est-ce que tu sais pourquoi il y a des boules ? C'est pour que les oiseaux voient les câbles. Alors, on en met pour les oiseaux, pour les avions aussi.
D'accord, ok.
Et on met des boules pour que les grands oiseaux voient les câbles.
D'accord.
Et pour qu'ils évitent les lignes. Et d'ailleurs, on a pris un engagement, c'est de faire plus 60% de kilomètres de lignes qui sont équipés de ces boules. Alors, c'est un petit côté guirlande. Mais c'est important,
c'est bon pour
parce
les oiseaux,
que c'est bon pour eux. Ça les évite de se prendre dans les câbles. Donc, on a ce sujet-là. C'est d'ailleurs notre principal sujet de biodiversité, parce qu'en fait, un réseau électrique, c'est des pylônes qui sont posés sur le sol. Donc, ça impacte peu. On peut aussi l'enterrer, je te l'ai dit tout à l'heure, et on le fait quand même beaucoup. Alors là, au moment où on le fait, ça coûte un peu plus cher. Et donc, pour les très gros réseaux, ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Au moment où on le fait, on fait un trou, donc ça abîme un peu, mais on rebouche et la nature reprend ses droits. On fait des postes électriques nouveaux, et là, c'est une installation industrielle. Donc là, il y a quand même un sujet. Donc nous, on bosse à la végétalisation de ça pour qu'il y ait le moins de béton possible. Mais de toute façon... Il y a un truc qui est au cœur, c'est que plus ce réseau il est bien dimensionné, tu vois, au juste niveau, moins tu as d'impact. Donc, moins tu as d'impact sur la biodiversité, moins tu as d'impact sur le CO2, moins tu as d'impact sur les matériaux, parce que tout ça, c'est de l'aluminium, c'est de l'acier, c'est du cuivre, etc. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de bien le dimensionner, pile poil, je dirais. Aujourd'hui, il est très bien dimensionné, il marche bien. Demain, donc, on va grandir. Bah, il faut qu'on accompagne cette croissance-là. Et c'est une croissance de notre consommation, c'est une croissance économique, c'est finalement toutes nos croissances.
Adèle et Mireille, c'est quoi l'impact aussi sur les paysages ? On sait que c'est un enjeu qui fait l'objet de débats importants. Les Français, beaucoup de Français sont très attachés à leur vue, à leur paysage. On a vu le débat sur l'installation d'éoliennes. Est-ce qu'on a aussi le cas sur le réseau de transport d'électricité ?
C'est un sujet qui apparaît moins, me semble-t-il, dans les préoccupations.
Romain, je ne suis pas d'accord avec toi.
Parce moi que... non plus.
Sur le transport. Et Anaïs, c'est pas d'accord non plus. Hein.
Oui. Alors, en tout cas, ça apparaît peut-être à des niveaux plus locaux, mais dans les débats politiques nationaux, c'est systématiquement les parcs éoliens.
Ouais, t'as raison. C'est moins entendu.
Voilà.
Ouais. Donc, alors, vous, par contre, au niveau local, la CNDP, vous avez...
Oui, effectivement, il y a des débats régulièrement, parce que là, on parle d'un débat sur un plan-programme, quelque chose de très stratégique, etc. Mais il y a aussi ensuite des débats qui sont sur des projets très précis dans des territoires donnés. Bon, je sais que ça ne va pas faire plaisir à Xavier, mais il y en a eu un à Fos-sur-Mer récemment, où il y a eu des discussions vraiment très animées.
Ici, ça me fait plaisir, on en parle. Hein. Il n'y a pas de tabou ici.
Et donc, où vraiment, il y avait des personnes qui étaient très heurtées par le projet qui était proposé au plan du paysage, parce que c'était dans des territoires qui étaient assez préservés. C'est vrai qu'en fait, finalement, peut-être aussi qu'il y a eu moins de débats, parce que il y a peut-être eu moins de construction de nouvelles lignes ces dernières années qu'il ne va y en avoir dans le futur. Exactement. Mais en réalité, là où on installe des lignes, il y a des débats, même si ça n'arrive pas forcément jusqu'aux bancs de l'Assemblée nationale.
Ouais. Il y a une question de justice territoriale aussi qui est importante. Est-ce que tous les territoires sont traités à la même enseigne ? Est-ce que la modernisation est la même partout ? Est-ce que la robustesse du réseau est la même partout ? Ce sont des enjeux aussi qu'il va falloir trancher dans ce débat public ?
Oui, on fait très attention à ça parce que le réseau de transport d'électricité, c'est un réseau d'intérêt national et ça a du sens, les mots, en fait. n'y a pas de raison qu'il y ait des régions déshéritées. Donc, on fait très attention à ça. Et typiquement, lorsqu'on projette le réseau, tu l'as vu tout à l'heure, c'est ces espèces d'artères sanguines, lorsqu'on le projette en 2040, 2050, etc., on fait bien attention à ce que ça serve les politiques publiques qui sont mises en œuvre dans les territoires, les régions, etc. Donc, en fait, nous, ça nous conduit à beaucoup discuter avec les élus locaux, les élus régionaux, avec les ONG locales, etc., pour essayer de bien dimensionner le truc. Sur le paysage, juste un mot, nous, dans le plan d'investissement qu'on met en débat là et qu'on est heureux de voir... devoir discuter, on a pris l'engagement que d'ici 2040, il n'y aurait pas d'augmentation des rangées de pylônes. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des grandes artères qu'on va transformer et qu'on va renforcer, et que dès qu'on peut enfouir en contrepartie, on le fait. Voilà. Pour pas qu'il y ait un impact paysager supplémentaire global. Mais après, c'est vrai que localement, ça peut arriver. Et on peut en discuter de manière paisible. Tous les projets d'infrastructure, ils sont confrontés à ces sujets-là. Qu'on fasse une ligne à grande vitesse, c'est pareil. Qu'on fasse une ligne haute tension, c'est pareil. Qu'on fasse aussi des choses qui servent à la population, qui ne sont pas toujours glamour, une station d'épuration, etc. Ça nous sert, on en a besoin, c'est important pour demain. Et pourtant, il y a toujours des oppositions. C'est notre boulot, à nous les maîtres d'ouvrage, de bien faire le job pour que ce soit fait le mieux possible.
Dernière question, il y a très probablement une dimension européenne assez importante à ces enjeux-là. On n'est pas une île isolée, la France, on est au cœur d'un réseau et en plus on échange de l'électricité avec nos voisins. Est-ce qu'on est les seuls à avoir ce type de débat public sur l'avenir de notre réseau de transport d'électricité ? Ou est-ce que chez nos voisins aussi ça gamberge et ils font des émissions sur Twitch ?
Alors, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait eu des mises ensuite. En réalité, j'avoue que je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, la CNDP, donc la Commission nationale du débat public, est une spécificité française. Il y a d'autres façons d'organiser des débats publics dans d'autres pays. Ça n'a pas forcément la même forme. Voilà. Mais après, je ne sais pas si côté RTE, vous avez des exemples.
Moi, je n'ai pas d'exemple de débat public, ouais. Parce que c'est vrai que ce régime-là, il est typiquement français, mais tout le monde fait plus ou moins de la concertation, que ce soit mis en débat... dans les territoires, au Parlement. Tous les pays d'Europe gambergent sur le sujet. Tout le monde a des plans d'investissement réseau absolument considérables. D'ailleurs, le nôtre, il est plutôt plus petit que les autres parce qu'il est plus optimisé et parce que notre réseau, donc aujourd'hui, était quand même mieux maillé, plus mature. Donc, il est plutôt inférieur aux autres. Il est même trois fois plus petit que le plan allemand, qui est un pays un peu comparant. Mais tous les pays gambergent et tous les pays se préparent à faire des gros investissements parce qu'en fait, l'électrification pour demain, c'est le cœur. Si on ne peut pas garantir aux Françaises et aux Français qu'on est capable d'électrifier les usages, les industries, etc., en fait, on ne sortira pas du pétrole.
J'espère que tout ça vous aura fait gamberger, chers amis. Maintenant, c'est à vous de jouer en vous rendant sur le lien dans le chat pour rejoindre le débat de la CNDP, soit en ligne, soit près de chez vous. Vous aurez toutes les informations sur le site internet de la CNDP. Je remercie très fort la CNDP, le partenaire de ce Before de Backseat. Nous étions sur ce plateau avec Anaïs, représentante de l'équipe du débat public, Xavier, président du directoire de RTE, Adèle, chercheuse à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, et Mireille, professeure d'économie à PSE et à l'Université Paris 1. Merci, chers amis, d'avoir été avec moi sur ce plateau.
Du 4 septembre au 16 janvier, la CNDP organise un grand débat lié à la transformation du réseau électrique. Tu peux te tenir informé en ligne ou près de chez toi grâce au lien en description. En te renseignant et en cliquant sur le lien, tu soutiens aussi Backseat, car la CNDP est partenaire de l'émission.